Direct en jeu, la radio insolite. Non, je ne vais pas vous faire la surprise en ce 1er avril de me mettre à chanter, parce que je pense qu'il se débrouille beaucoup mieux que moi, le fameux Serge. Mais alors attention, nous n'avons pas affaire à n'importe qui, parce qu'il est metteur en scène, chanteur, directeur du hall de la chanson, mais il est aussi artiste permanent. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le hall de la chanson, c'est le Centre National du Patrimoine de la Chanson, c'est du sérieux. Bonjour monsieur le directeur, bonjour Serge.
Bonjour, bonjour. Mais c'est tout à fait normal que tous les lieux qui sont des centres nationaux, ou par exemple des théâtres nationaux comme l'Odéon, je sais pas moi, ou même la Criée à oui. Marseille, sont des théâtres dont les directions sont données à des artistes. Le jour où ce sera plus que des administrateurs, ça voudra dire que la culture n'existe plus. C'est très important dans un pays comme la France, depuis, je dirais même Molière et Louis XIV, ou depuis Jean Villard et Malraux, on fait une confiance très grande aux artistes de diriger des maisons. En fait, un artiste, pas simplement quelqu'un de la nuit qui serait simplement léger. C'est vrai que la légèreté, c'est plutôt une qualité, mais c'est aussi des gens capables d'avoir des équipes gérées. Et on a créé même une école supérieure en matière de chansons. Alors on peut dire, mais pourquoi supérieure? Simplement parce que la chanson n'est pas inférieure, et qu'en plus c'est très difficile de chanter des chansons qui ont des siècles ou des décennies, puisque nous, notre truc, c'est ne pas laisser mourir les œuvres. Parce que penser que la chanson, c'est simplement un objet de mode, et qu'on ne connaît que les chansons de nos premières amours ou les chansons marquant notre vie, certes, c'est important, mais il y a des chansons dont il n'y a plus un contemporain pour les connaître, parce qu'elles ont 100 ans ou 400 ans, et c'est génial. Le fait chez nous que les chansons sont chantées par des gens de moins de 30 balais, pas simplement pour leur jeunesse, mais pour leur talent, mais qui sont des gens qui ont souvent fait des écoles supérieures de théâtre ou de musique, et tout d'un coup on décloisonne. On a des musiciens, ils ont été formés plutôt à la musique classique ou au jazz, qui est considéré comme la plus savante des musiques populaires, qui tout d'un coup se retrouvent ou devant des œuvres qui ont des siècles, ou devant des tubes des années 60 qu'on pourrait, ou 50 qu'on pourrait mépriser, et qui en font quelque chose de totalement dépoussiéré et qui touche des gens de 20 ans, de 18 ans. Nous, notre cible, c'est pas simplement les gens de l'époque des chansons, puisqu'il y en a plein qui pourraient pas être vivants, c'est comment transmettre ça à des gens hyper jeunes, et ça veut dire même des ados. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre théâtre à la Villette, à Paris, dans le parc de la Villette? Il y a, je crois, 100 lycéens et lycéennes de terminale devant des chansons du Moyen-Âge jusqu'à l'arrivée du rap, le rap compris. Le rap, ça a 40 ans, c'est donc déjà un objet de patrimoine, et nous, ça rentre dans notre mission. Une, ça nous intéresse, c'est notre passion, mais deux, c'est carrément la mission que le ministère de la Culture nous donne maintenant depuis 30 ans, mais depuis 13 ans, nous avons un théâtre à la Villette, et jusque-là, on faisait des choses partout, et on continue à le faire, et on faisait beaucoup de multimédia aussi, en créant des bornes interactives. On va revenir aussi un peu à ce travail-là, parce qu'on a la chance de bosser à la Villette, et à la Villette, il y a des trucs incroyables qui concernent toute la France, les fameuses microfolies, il y en aura bientôt 600 en France, y compris en Outre-mer, que c'est la France, et c'est très passionnant. Et bien sûr, on revient régulièrement à la chose essentielle chez nous, qui est que ce n'est pas en parlant des chansons qu'on en donne le goût, mais c'est en les chantant, comme vous disiez si bien. Mmh. Et du coup, en ce moment, on ne veut pas rater l'anniversaire des 100 ans de l'arrivée de Joséphine Baker, et en même temps, c'est les 50 ans de sa mort, et c'est un quelqu'un d'étonnant. C'est à la fois un personnage, on le sait, hein, elle a été une espionne pour la France, pour la Résistance, elle a fait partie des fondateurs de la LICRA. L'antisémitisme et le racisme, elle les a mis ensemble tout de suite. Elle est devenue française par un mariage avec un homme qui s'appelait Monsieur Lyon, qui était juif, et elle est restée extrêmement fidèle à tout ça. C'est une femme donc qui a grandi à Saint-Louis du Mississippi, et ça a été une horreur. Elle a vu petite vraiment des gens assassinés, tués, massacrés parce qu'ils étaient noirs. Et cette fille donc apprend à danser dans la rue. c'est vraiment la grand-mère du hip-hop. Mmh. Et puis, elle fait tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Elle ment sur son âge. Elle dit qu'elle a 18 ans alors qu'elle en a 14. Et elle se fait engager dans une troupe de musiciens et de danseurs noirs. Étonnant, c'est l'arrivée du jazz. Hein, et c'est même la naissance du jazz là aux États-Unis. Et elle est pétrie de ça. Et c'est ensuite qu'elle deviendra une chanteuse, d'ailleurs géniale, mais elle est d'abord une danseuse. Et tout va se jouer, il y a 100 ans pile, en un quart d'heure. Ça veut dire qu'il y a un spectacle qui doit se donner au Théâtre des Champs-Élysées, qui était un théâtre qui avait très bien marché. Le directeur rêvait de faire le succès qu'avaient connu les ballets russes dans les années 1900 ou à peine après ou pendant la guerre avant la guerre de 14. Ensuite, il y a eu les ballets suédois qui ont moins marché. Et ce malheureux nouveau directeur du Théâtre des Champs-Élysées se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et une Américaine qui avait plus de boulot parce que son père lui donnait de l'argent, la fille d'un homme riche, dit « Mais qu'est-ce que je sais faire dans la vie ?» Et cette fille, Caroline Dudley, dit « Mais moi, la seule chose que je sais faire, c'est aller voir des spectacles. Donc, je vais essayer d'en faire un métier. » Elle propose au directeur de ce théâtre des Champs-Élysées un spectacle qu'avec des blagues, tous habillés pareil. Le mec a un doute, il se dit « Mais ça ne va pas plaire aux Français. » Parce que les Français, pour eux, les Noirs, c'est des gens avec un petit nonos dans le nez. Mmh. C'est le regard colonial. Et il craint que ça ne marche pas. Il organise une avant-première. Effectivement, il entend plof, plof, des tout petits applaudissements minables. Il se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et un type étonnant, Paul Colin, qui est celui qui a même inventé le grand escalier du Casino de Paris, qu'on voit partout, dans toutes les revues du monde, en Asie ou à Las Vegas. Cet homme-là dit « J'ai une idée. En fait, la vraie vedette, ce n'est pas la chanteuse qui est au milieu, c'est la fille qui est au bout de la line, comme on dit, de la ligne comme un point d'exclamation, qui fait des grimaces tout le temps parce qu'elle n'aime pas qu'on la regarde tellement elle est belle, elle ne supporte pas le regard des gens. Et c'est Joséphine Baker. Il dit « C'est elle, en fait, qu'il faut prendre. Il faut rajouter un quart d'heure avec elle qui va danser nue, quasiment nu, à côté d'un mec quasiment à poil aussi, des percussions, et on va appeler ça la danse sauvage. » Du coup, la vision française coloniale était satisfaite, on appelait ça sauvage, et la fille improvise un truc, et elle devient en un quart d'heure, pour la vie, une artiste de référence. Alors dans la salle, il y a la moitié de la salle qui hurle des trucs racistes, évidemment, et puis l'autre moitié de la salle qui est composée de gens comme Jean Cocteau, Pablo Picasso, Poulenc, tous ces gens d'un groupe qu'on appelle le groupe des six, qui sont des musiciens bourgeois et savants, tout d'un coup qui disent « Mais c'est beau, cette femme est belle, appelons-la la Vénus noire. » Et tout d'un coup, pour la première fois de tous les temps, on dit qu'une femme noire est belle, qu'elle fait un truc que les autres ne savent pas faire. Et ils avaient déjà eu un engouement, tous ces groupes, un peu de gens qu'on pourrait appeler snobs, mais à ce moment-là, vivent les snobs, hein, vivent ceux qui ont un peu un regard d'avant-garde. Et ils étaient pétris de jazz, ça les fascinait. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui un mot interdit, heureusement, mais en ce temps-là, ce n'était pas la même connotation, l'art nègre, fascinait des gens comme Picasso et de nombreux peintres de l'époque, tout ce côté graphique de tout ça. Et donc, c'est un grand phénomène. C'est à la fois une femme dont on peut parler personnellement. Nous, on a appelé notre spectacle est une revue, parce que les revues, c'est un genre très spécial. C'est-à-dire que ça marche en tableau, il faut plein de costumes. Là, il y a 60 costumes et il faut un orchestre. On a constitué un orchestre et c'est des gens étonnants parce qu'ils sont en revisite là-dedans. Eux, ils ne font pas du tout copie conforme comme à l'époque. Comme à l'époque, ça ne veut rien dire. Même quand on joue Mozart, ce n'est pas comme à l'époque, parce que les instruments n'étaient pas les mêmes, etc. Et c'est toujours comme à notre époque qu'on fait les choses. Et c'est étonnant. On l'a appelé la revue arc-en-ciel, parce que ça, c'est aussi un truc vraiment d'avant-garde avec Joséphine Baker. Elle a, avec son mari, M. Jo Bouillon, qui ne cachait pas, et en ce temps-là, c'était quelque chose, qu'il était homosexuel, il ne le cachait pas du tout. C'était le mari de Joséphine Baker. Et ils ont décidé d'adopter 12 enfants de tous les continents. Alors, on est carrément dans l'homoparentalité, on n'est que dans des trucs d'aujourd'hui, quoi, dans des questions d'aujourd'hui. La couleur, ça veut dire quoi? Elle disait par exemple, je ne vois pas les couleurs. Et on a appelé ça évidemment la revue Arc-en-Ciel, parce qu'elle-même avait appelé son espèce de rêve la tribu Arc-en-Ciel. Elle appelait tous ses enfants, là, dans ce château qu'elle avait acheté, qu'elle a perdu ensuite. Arc-en-Ciel, aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire, hein, le drapeau Arc-en-Ciel, c'est LGBT+. Bon, elle est dans la rencontre d'un tas de trucs d'aujourd'hui, mais nous, on ne s'appesantit pas là-dessus. Là, je vous fais des commentaires, mais on chante les chansons. Il y a 11 tableaux étonnants et qui passent par différentes périodes. Par exemple, dans les revues, il y a toujours eu le tableau Grand Siècle, c'est-à-dire des tableaux qui faisaient référence au château de Versailles, etc. Et ben nous, dans notre revue, le tableau Grand Siècle, c'est un tableau qui rappelle qu'en 1793, à la première abolition de l'esclavage, le Sénat français, des républicains, de cette jeune république, a voté à l'unanimité contre l'esclavage. Donc c'est vraiment étonnant parce que c'est aussi un peu une histoire de la France et de l'Amérique, quoi. Alors, dans une Amérique telle qu'elle est aujourd'hui, ça fait plaisir de parler d'une autre Amérique. Et c'est étonnant, étonnant, on passe par toutes les couleurs, chacun des tableaux a une couleur de l'arc-en-ciel. Alors on commence par l'ultraviolet, on finit par l'infrarouge pour le 11e tableau, et on a eu le jaune pour parler du chant du cygne, quand ça va être, il y a 50 ans, son dernier spectacle à Bobino, elle n'a plus un centime, et cette femme se dit, bah, ok, je monte sur la scène. Et elle a plus de 60 ans, quasiment 70 ans, elle va remonter sur la scène, elle fait la première et elle meurt après, quoi. Parce que c'est un travail extrêmement physique, le travail de la revue. Il faut chanter, il faut danser, il faut changer de costume en quelques secondes. Et c'est ce à quoi on a joué. Je dois dire que les 6 chanteurs, danseurs et qui sont là, et les 4 musiciens donnent une impression de nombre, on a l'impression qu'il y a un tas de gens. Évidemment, ces revues, elles se faisaient avec des tableaux incroyables, des décors, des plumes, des strass et tout. Nous, on a une autre manière de le faire, mais qui permet d'être fabuleux, hein. Il y a des très belles images, et c'est ça qui était difficile, hein. Il fallait être à la hauteur on dirait, du côté féerique, du monde de la revue. Et je pense qu'on a vraiment bien réussi. Alors on le fait là, maintenant, parce qu'il y a un truc anniversaire. Et c'est bien, parce que dans les anniversaires, il y a une sorte de relais. Les collègues, vos collègues de communication, de presse, de médias, bah, tous ensemble veulent faire un événement. Du coup, c'est super pour nous tous. Et donc on fait ça jusqu'au 13 avril. L'anniversaire lui-même, c'est le 12 avril. Et donc ça fait appel à tous les métiers vraiment du spectacle, hein, ceux du décor, ceux des costumes, 60 costumes. On a vécu vraiment au milieu d'un atelier de costumes. C'était incroyable, c'est merveilleux. C'est un petit peu comme, voilà, je dis une féerie, c'est un petit peu comme si on préparait un conte pour les enfants, sauf que c'est plutôt pour les grands, quoi. Mais les enfants adorent, mais ça parle des vraies choses de la vie, quoi, quand on est grand, quoi. Et il y a toutes les dimensions aussi politiques. Par exemple, Joséphine Baker a été la seule femme invitée à prendre la parole auprès de Martin Luther King, quand le 18 août 1962, là, il a prononcé son discours sur les droits civiques pour les Noirs, le fameux I have a dream, et cet homme lui a demandé un discours. Et ce discours de Joséphine Baker est sublime. Cette manière de raconter sa vie, comment on lui a interdit des toilettes, on lui a interdit des restaurants parce qu'elle était noire, et même quand elle était devenue une star et qu'elle est revenue aux États-Unis, ça s'est passé aussi, elle a fait un scandale. Et donc elle a fait avancer les choses de cette manière-là, en jouant du fait qu'elle était devenue célèbre, mais en gardant cette responsabilité pour la différence. Et donc ce discours, pour la première fois, on l'entend traduit en français par nous-mêmes. Et au moment du spectacle, je vous dis que ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir sur le net en ce moment, il y a 4 filles qui le rappe, le discours, et c'est extraordinaire. à quatre voix, quatre filles, dans un monde, souvent le rap, où c'est un monde de mecs, souvent un peu macho, il faut bien le dire. Il y a des rappeuses, mais c'est quand même un monde où les femmes sont considérées comme des putes. Elle, jamais, même le jour où elle a dansé à poil, il ne s'agit pas de ça. Hein. Elle a été très claire, d'ailleurs. Elle dit, ok, d'accord, moi, je ne veux pas retourner aux États-Unis. Donc, ok, je vais le faire. Mais attention, ce n'est pas le même métier. Et là, il y a quelque chose de très fort quoi, chez elle. Mais ce discours est étonnant, étonnant. Et il avait été mis un peu sous le boisseau, ce discours. On sortait des disques depuis quelques années sur cet événement extraordinaire de la prise de parole de Martin Luther King. Et ce discours, on ne le mettait pas. Une, parce que c'était une femme, ça c'est sûr. Et les autres, on les mettait, les discours. Et une femme qui a fait une bande dessinée formidable avec quelqu'un avec qui elle travaille, Bokeh, ont retrouvé ce discours en anglais. Et nous l'avons traduit, c'est vraiment magnifique. En accompagnement du spectacle, d'ailleurs dans notre théâtre même, à la Villette, venez, hein, c'est facile de venir à Paris, en fin de compte, quand on est à Lyon ou ailleurs, et c'est incroyable. On a mis une expo, pareillement, en 11 tableaux de sa vie, dessinée par Katel Müller, qui est une femme qui fait des biographies, comme elle dit. C'est des sortes de biopics sur les femmes dessinées. Des grosses bandes dessinées, très épaisses, incroyables. Et elle a fait pour nous 11 tableaux qui sont dans les fenêtres extérieures de notre théâtre, dans le parc de la Villette, où on peut se balader autour et on voit cette expo, où là, on peut, avec son QR code, interroger le discours en anglais de Joséphine Baker. Et dans le spectacle, on l'entend en français. Il y a un grand nombre de chansons. Je ne sais pas, je pense qu'il y a plus de 40 chansons. Quelquefois, elles ne sont pas chantées entières, elles sont collées les unes aux autres, et ça fait une sorte de, je dirais, de fresque musicale. Et c'est vraiment un spectacle très complet qu'on ne peut pas se permettre, nous, très souvent, parce que ça demande beaucoup de gens sur la scène, ça demande quand même un grand temps de répétition, puis de repérer des gens qui vont être capables de danser, donc il faut quelqu'un qui règle les danses, chef d'orchestre, un mec très jeune, qui a peut-être 32 ballets, qui est étonnant, qui est pétri de jazz, et en même temps qui est un homme de son temps. On est à la fois transporté dans cette époque-là, ces époques, je dirais, puisque ça va vraiment de sa naissance jusqu'à sa mort, et en même temps, on reste d'aujourd'hui, voilà, c'est tout le... Je dirais que c'est toute l'orientation et la manière de travailler que nous avons au hall de la chanson, quoi. Qui est que si on veut que ça passe, ces trucs-là, qu'elles ne meurent pas, qu'elles ne trépassent pas, si on veut les faire passer, il faut rester des gens de notre temps, mais sans démagogie, quoi. Y a un moment étonnant pour... Alors, les deux seules chansons que les gens connaissent souvent d'elle, c'est « J'ai deux amours ».
Exact.
Qui est traitée d'une manière vraiment... formidable, je ne dis pas. Et puis une autre qui est monstrueuse, la Tonkinoise, qui est horrible, qui est vraiment une chanson de bordel, quoi. Et elle est très sensible à ça, le fait que on regarde les gens dans leurs différences, comme si on allait faire du tourisme sexuel, quoi. Et elle est très critique sur tout ça. Ça veut dire le respect qui est dû aux gens et pas être vu comme des fruits exotiques qu'il faut croquer et bouffer en se les payant comme dans un rapport de prostitution. C'est étonnant ce que cette femme réveille, si vous voulez. Que ça me fasse parler autant, d'ailleurs, c'est vraiment que c'est incroyablement inspirant.
Si je peux me permettre, je me régale. Okay. Est-ce que dans toutes les activités du hall de la chanson, tu présentes aussi des conférences ? Parce que là, on en apprend plein de choses assez extraordinaires. C'est chouette parce que là, on voit vraiment les coulisses d'une artiste qui est, c'est vrai, un peu connue pour tout ce qu'elle a fait, mais on voit d'autres choses, quoi. Est-ce que tu fais des conférences là-dessus ?
Oui, il y en a des conférences chantées et il n'y a pas que moi qui les fais. Il y a un garçon extraordinaire, Olivier Husnet, là, qui dirige ce théâtre avec moi, qui le fait aussi. Mais la différence de ces conférences, c'est qu'elles sont chantées. C'est-à-dire que là, je serais en conférence, je ne pourrais pas me retenir de les chanter. Et il y aurait à côté de moi un ou deux musiciens et on chanterait. Donc, c'est toujours ça. Nous, notre truc, c'est on parle des choses et on les chante.
D'accord. Alors,
sinon, il y a plein d'autres, ouais. Il y a plein d'autres gens qui parlent de très bien, notamment de tes confrères. Les journalistes parlent très bien de la chanson. Il y a des universitaires de plus en plus. Il y a des gens qui font des masters, des licences, des masters, même des thèses, des jeunes. Des gens jeunes. Il y a de plus en plus d'universités qui prennent comme objet la chanson. Souvent, ils le prennent comme un objet sociologique.
Oui.
Alors nous, bien sûr que la sociologie nous intéresse parce que quand on est artiste, c'est le public qu'on aime, c'est la société. Mais en même temps, la différence, c'est qu'on est des artistes. On pense que ce n'est pas simplement en commentant, mais c'est en chantant d'une autre manière.
Oui.
Les choses qu'on les fait vivre, quoi.
On fait passer les messages différemment. Alors moi, j'ai quand même une question, parce que t'entendre, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tu dois te demander qu'est-ce que c'est que ma question. Bah oui, moi, d'après les infos que j'ai, tu as commencé par une formation à l'école du cirque d'Annie Fratellini.
Ouais.
Tu as quand même fait des études de philosophie, des études de littérature générale et des sciences d'éducation.
Ouais.
Et tu arrêtes à la chanson. C'est original.
Oui, mais en fait, la chanson, elle accompagne tout le monde. Tout le monde, toutes les classes sociales sont accompagnées de chansons. Parfois, les gens ne disent pas. Dans la bourgeoisie, les gens entendent de la chanson parce que les nannies ou les gouvernantes qu'ils ont eues écoutaient des chansons. Dans le monde populaire, mais enfin, un peuple, c'est quoi ? Le populaire, c'est toutes les classes mélangées, en fait. Et il se trouve que la chanson, ça rassemble tout le monde. Moi, ce travail que je fais, il est né d'une étude qu'on m'avait confiée il y a 35 ans, le ministère de la Culture. Donc, je suis allé voir des gens, je n'allais pas mettre que mes idées en avant. Et il fallait, quand on fait une étude, rencontrer beaucoup de gens. Et je rencontrais des gens de toutes couleurs et je leur demandais toujours à la fin, quelle est votre chanson préférée ? Alors, un jour, ça devait être le jour des J. J'étais allé voir Jospin. Et ensuite, j'avais Juppé. Enfin, c'est étrange que ce jour-là, j'allais voir deux personnes dont le nom commençait par J. Et à la fin, j'ai demandé à Jospin et à Juppé quelle est votre chanson préférée. Et c'était la même. Et c'était Le Temps des Cerises. Voilà. D'autres fois, je voyais des gens, leur chanson préférée, c'était Les Feuilles Mortes. Alors tout d'un coup, des gens très différents avaient des points communs. Et moi, c'est ce qui me passionne le plus. Et la chanson permet beaucoup de points communs. C'est un objet qui n'est pas élitaire. Il ne crée pas des élites. Il ne crée pas des cloisons, mais il décloisonne. C'est-à-dire qu'on peut rire ou être ému au même moment. Rire, c'est aussi se moquer. Être ému, jusqu'à en pleurer, c'est encore autre chose. Et donc, c'est un phénomène qui m'a toujours, moi, passionné. Et alors, j'avais appris, il y a une chose que tu sautes, mais dans ma biographie, chose importante, c'est que je chantais avec mon père. Alors, mon père, lui, dirigeait des chorales, mais c'était des cantiques qu'il faisait chanter.
Oui.
Ma mère, qui n'était pas du tout portée là-dessus, son père était communiste, elle laissait faire en disant « c'est très bien, allez-y », et on chantait des trucs de toutes les époques. Et en fait, je suis rentré dans la chanson et dans la vie d'artiste par ce biais-là. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la vie d'artiste par la fanfare, par les chorales, qui sont des pratiques qui vous ouvrent l'oreille, c'est vrai. Tout d'un coup, vous chantez juste. Chanter juste, c'est aussi avoir eu l'habitude de chanter et d'entendre d'autres chanter une autre voix et on chante ensemble. Et c'est vrai que j'ai eu la chance par ma génération de voir une université extraordinaire qui s'appelait Vincennes, Paris 8. Et nos profs de philo, ils s'appelaient carrément Deleuze, Michel Foucault. C'est-à-dire les artistes les plus célèbres dans le monde, ils enseignaient dans une université qui avait été créée parce que le lendemain de 68, un ministre de droite, M. Edgar Faure, qui était très extraordinaire, et puis un écrivain de gauche, peut-être même d'extrême gauche, Jacques Derrida, une femme comme Hélène Cixous, et lui, on dit oui. On ne peut pas envoyer à la Sorbonne nos étudiants qui ont été très actifs dans une révolte en disant « on veut changer le monde ». Quelqu'un qui dit « je veux changer le monde », c'est toujours quelqu'un d'intéressant. Ça dépend, bien sûr. Mais et ils ont dit « non, on ne peut pas les envoyer à la Sorbonne parce qu'ils vont s'ennuyer ». Donc, il faut leur créer une université à la hauteur de leur curiosité. Et moi, j'ai eu la chance, j'étais lycéen, moi, pendant l'époque de 68, mais j'ai eu la chance de faire toutes mes études à Paris 8. Et j'ai eu les meilleurs profs, si on considère que la célébrité ou la renommée est une preuve de qualité, parfois. En tout cas, j'ai eu les profs de philo qui sont les gens qu'on connaît aux États-Unis aujourd'hui. Alors, si vous voulez, ça, c'est une chose vraiment importante. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, mais à un moment, vous ne pouvez pas tricher. Quand vous avez commencé à être artiste très jeune, vous ne pouvez pas tricher. Il y a un moment où vous dites, non, mais attends, vous regardez dans la glace et vous dites, c'est quoi la chose que tu sais faire le mieux, que tu aimes le plus? Et bien sûr que c'était d'être sur une scène. Et j'ai décidé d'abord d'aller à l'école du cirque parce que je ne voulais pas faire que du théâtre intellectuel. Je voulais revenir aux choses, aux bases d'ailleurs populaires, qui sont le cirque, la commedia dell'arte. Et j'ai ensuite fait un grand stage et je suis rentré dans une troupe italienne. Et j'étais le seul français de la troupe. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être un étranger pour les autres. Un étranger, c'est toujours quelqu'un de précieux. Joséphine, regardez ce qu'elle a apporté pour qu'on en parle, pour qu'elle soit au Panthéon. C'est pas pour faire rigolo qu'elle a été au Panthéon. Moi, je les connais, les gens qui se sont battus pour qu'elle soit au Panthéon. C'est des gens extrêmement sérieux et qui voyaient ça comme une chose sérieuse. Et dans ce qu'elle représente, je me suis dit, mais je ne veux pas non plus être que dans le texte, que dans les grands auteurs, etc. Je veux aussi devenir un instrument populaire de spectacle. Et le cirque m'a fait du bien pour ça. Et le théâtre masqué, alors qu'il a des siècles, hein, le théâtre masqué. Et du coup, ensuite, j'étais tout à fait prêt à faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est la chanson qui toujours me revenait, parce que faire passer quelque chose en 3 minutes, c'est encore plus difficile que de jouer une pièce de 3 heures. Ou si vous vous êtes trompé au début, vous pouvez vous rattraper avec d'autres scènes. Avec la chanson, c'est comme au cirque. Si vous êtes trompé au bout de 40 secondes, vous allez vous casser la gueule comme un acrobate. Et c'est ce qui m'a passionné. Et à un autre moment, et ça a été ma liberté. Quand on fait des études, évidemment, la grande liberté, c'est qu'on peut aussi avoir des métiers différents. Et moi, j'ai jamais souffert, j'ai jamais été même intermittent, parce que j'avais toujours des boulots en même temps. Je dirais pas en plus pour faire les ménages, en même temps, et qui étaient des boulots passionnants. À un moment, j'ai travaillé à former des gens qui partaient en coopération dans le Maghreb et en Afrique. Alors, c'était formidable aussi pour moi parce que je formais des gens qui partaient en Algérie. Je suis né en Algérie. Je suis arrivé à 3 ans en France. Tout d'un coup, je rencontrais aussi des choses et de mon histoire et de l'histoire de France, parce que l'histoire de la coopération, c'était aussi continuer à faire des choses dans des pays qu'on avait colonisés et qui s'étaient libérés de nous et qui continuaient à parler français. Alors tout ça me passionne vraiment beaucoup et c'est vrai quelque chose que j'ai appris pour le faire, les sciences de l'éducation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on enseigne, pas seulement à des enfants, ce qui est passionnant, ou à des adolescents, mais comment est-ce qu'on enseigne à des gens qui ont 40 ans et qui n'ont plus de boulot. Comment est-ce qu'on enseigne à des chômeurs? Comment est-ce qu'on montre à des gens que leur vie va changer et que peut-être c'était pas tout à fait comme ce que leurs parents ou eux-mêmes rêvaient et que leur vie n'était pas qu'une seule destinée, mais plusieurs choses à la fois. Et ça demande de réfléchir à la manière dont on s'y prend, hein. Respecter les gens, leur fragilité, les stimuler, leur redonner une jeunesse, leur redonner le goût de repartir pas à zéro, mais de repartir vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je suis allé faire des sciences de l'éducation, et où ça, encore une fois, à Paris 8, qui est vraiment, qui est maintenant ailleurs, qui est à Saint-Denis, cette université, mais qui garde encore un peu de sa tradition, qui est un petit peu plus, je dirais, normée aujourd'hui, parce que c'est assez épouvantable, hein, ce qu'on impose aux professeurs aujourd'hui, c'est la productivité, et le nombre plutôt que la qualité. On les emmerde beaucoup sur des conneries administratives, et c'est très bien d'évaluer, si mais il y a une nuance entre évaluer et contrôler. Et donc, Paris 8 quand même continue à être d'avant-garde, mais est un peu empêché parfois de donner ce que les gens qui enseignent sont capables de donner. Mais ce qui est formidable à Paris 8, et moi j'adore, on est associé d'ailleurs dans le cadre de notre école supérieure à cette universitaire, ce qui nous permet de donner des masters, c'est qu'il y a des gens de tous les pays du monde. Et avoir une université avec des gens de couleurs différentes, on retrouve notre Joséphine Baker, c'est magnifique, quoi. Parce que les différences, quand elles s'intéressent au point commun, ça apporte des choses formidables. Et c'est ça le début de l'humanisme, qui était la grande pensée française des Lumières. C'est ça. C'est les points communs entre les gens plutôt que les différences activées jusqu'à la guerre, quoi. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour nous présenter, par exemple, le tableau de la Seconde Guerre mondiale, on le fait, quand on entend, par exemple, chanter Quand je pense à ça. Une chanson de Joséphine que chantait Joséphine Baker, que vous pouvez trouver sur le net, quand je pense à ça et que vous pensez à ce qui se passe en ce moment, avec au moins deux guerres, il y en a plus dans le monde en ce moment, mais au moins deux guerres qui nous intéressent, parce que ça nous intéresse directement, alors évidemment, on les regarde, ces guerres-là, vous êtes extrêmement ému et vous vous dites, mais une chanson, une petite chanson, nous parle aujourd'hui même, quoi. C'est très true. C'est pour ça que dans la chanson, je me retrouve et je retrouve toutes les satisfactions, pas simplement artistiques, mais aussi de la pensée, de l'humain. Les chansons osent parler de tout. Prenez deux choses importantes dans les chansons, la politique et la sexualité. Si vous enlevez la politique et la sexualité, ben, il reste plus beaucoup de chansons. Les chansons, elles parlent beaucoup du désir, elles parlent des déclarations d'amour, elles parlent des séparations, je me suis fait larguer, et elles parlent de la vie quotidienne, elles parlent de tout. Et il se trouve que les deux sont liés, hein. La sexualité, c'est politique aussi, hein. Pourquoi certaines sexualités sont méprisées, pourquoi les hommes sont tellement dominateurs sur les femmes, c'est pas que de l'intime, c'est aussi de la politique, quoi. C'est très l'objet, la chanson, c'est absolument, c'est l'objet de le concentré de tout, quoi, de toute la vitalité.
Il y a un seul mot que j'ai envie de te dire, c'est merci. C'est un vrai régal de t'écouter. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet du Hall de la Chanson parce qu'il y a plein de choses. On parlait évidemment de la revue Arc-en-Ciel avec le 50e anniversaire de la mort de Joséphine Baker. Ça a déjà commencé puisque ça a été joué déjà le 26 et le 30 mars. Vous avez encore des dates au mois d'avril, donc il y a de
Ouais,
quoi
bah bien
faire.
sûr
Et
qu'on en
puis.
a. On a le 2, le 3, le 4, le 6, le 10, le 12 et le 13.
Voilà. Et puis, il y a aussi les Apaches de Bruant. Et puis, pour les 100 ans de la mort d'Aristide Bruant. Et puis, il y a aussi l'invention du music hall. Alors, imaginez en plus, vous voyez les étudiants de la promo Joséphine Baker 2024-2026. Il y a de quoi se régaler. Et quand on entend son directeur, on se dit que les élèves doivent être encore plus merveilleux que merveilleux. Enfin, faites-vous plaisir. Je ne sais pas, le mot merci n'est pas suffisant pour dire ce que je pense du temps que tu m'as donné par rapport à ce sujet-là. Mille merci à toi. Le hall de la chanson, donc, dans le parc de la Villette.
Oui, le hall de la chanson, c'est dans le parc de la Villette, porte de Pantin. Vous allez dans ce très beau parc où vous avez la Philharmonie, où vous avez la Cité des Sciences, le Conservatoire supérieur de musique. On dit qu'en Europe, c'est l'endroit où il y a le plus de musiciens qui passent dans la journée. Vous avez le Zénith, vous
Et oui.
avez le Cabaret Sauvage qui est incroyable, tenu par un type formidable. Et donc c'est tout un ensemble, si vous voulez, de gens qui chacun fait son travail dans son secteur, mais en même temps, il y a un esprit Villette, il y a une nouvelle présidente qui est sur tout le parc de la Villette, qui est une danseuse, Blanca Lee, encore une fois, une artiste au pilotage.
Oui, qui
Elle
sait de
vient
quoi
de
elle parle.
créer, pour la première fois, il y a un centre national des arts urbains et du hip-hop qui va ouvrir en novembre ou en octobre. Ça vient d'être dévoilé dans un endroit très beau. Donc, c'est-à-dire toutes les musiques sont représentées. toutes. Et il y a même du théâtre aussi et de la danse, mais toutes les musiques sont représentées. C'est pour ça que nous, on s'était vraiment pas battu, mais on avait défendu le désir d'être à la Villette. Et c'est Frédéric Mitterrand, là, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui avait dit oui, moi je veux que ce soit le hall de la chanson qui soit. Et c'est sûr que d'avoir un théâtre, ça change tout, parce qu'on a une maison. Et puis, mais il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui nous rende sédentaires. Du coup, d'ici un an, on va essayer de beaucoup tourner. Et d'aller se balader dans toute la France, c'est pour nous très important. En tout cas, on a des gens de toute la France. Dans notre école, il y a les gens qui se présentent au concours, ils sont de toute la France. Il y a des gens qui viennent de l'école de Lyon, l'ENSAT, qui est vraiment une école supérieure géniale en matière de mise en scène, de jeu pour les comédiens, et même d'administration et de technique. Donc on a des gens de partout, de Marseille, d'outre-mer aussi. Ça, c'est passionnant. Je sens que la chanson, en 35 ans, c'est beaucoup déringardisé, quoi. Ouais. On considérait, et que vraiment, les gens sont très attirés, le public, mais aussi les gens qui veulent faire notre école et tout. Et on fait notre concours tous les 2 ans. La prochaine fois, ça sera donc à la fin de 26 qu'il y aura le concours, enfin en mai ou en juin. Et puis après, à chaque fois, il y a 15 personnes avec qui on reste pendant 2 ans, on ne prend pas tous les ans. Du coup, on a nos spectacles avec les différentes distributions des spectacles. Et puis, on a ce petit groupe-là, spécialement auprès de nous, qui tous les 2 mois présente la fin du travail qu'ils ont fait durant ces 2 mois. Et en ce moment, ils travaillent sur le music hall. Ça s'appelle les Cabaret Tech. Alors, c'est une soirée géniale, gratuite, parce que c'est des artistes étudiants qui se présentent. Et du coup, c'est offert. Enfin, c'est une belle maison où il y a vraiment beaucoup de joie et d'émotion. Voilà qui nous sommes.
Eh bien, écoute, merci, merci et merci. Voilà une interview qui se transforme en émission spéciale que j'adore. C'est toujours une belle surprise et tout. Et puis, rendez-vous très, très vite. Et puis, qui sait, peut-être un jour, bienvenue dans ma bonne ville de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, avec un truc pas très connu qui s'appelle le TNP, notre théâtre national populaire.
Voilà. C'est le début de tout ça.
Exactement. Merci à toi.
À bientôt.